Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaragal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. C'est moi qui vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Et au programme aujourd'hui, eh bien, comme tous les samedis, on va revenir sur un événement marquant intervenu, un 27 août. En l'occurrence, cette semaine, Léo Roussel va nous parler de la création du livre Guinness des records. Notre collègue Thomas Mercier a lui rencontré une spécialiste italienne des langues régionales françaises. On va parler avec elle de la langue bretonne, basque ou encore corse. Et puis Thomas Mercier, très occupé ces derniers jours, a également rencontré un chef cuisinier, Philippe Mouchel, qui va nous livrer tous les secrets du fonctionnement d'une cuisine dans le cadre de notre série culinaire à table. Mais tout d'abord, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 27 août. En Australie, cela fait aujourd'hui très exactement 100 jours qu'Anthony Albanese a endossé le costume de Premier ministre. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été remise en service, mais sur place, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la situation reste précaire et même dangereuse. Enfin, le laboratoire Moderna porte plainte contre Pfizer BioNTech. Les deux entreprises ont développé un vaccin contre le Covid-19, mais la première accuse la deuxième d'avoir copié ses brevets, notamment ceux concernant la technologie de l'ARN messager au cœur du fonctionnement de ces vaccins. Cela fait donc aujourd'hui très exactement 100 jours qu'Anthony Albanese a pris la tête du gouvernement australien, une période au cours de laquelle il a été très actif, en particulier sur la scène internationale, puisqu'il s'est rendu le jour même de son investiture au Japon pour rencontrer les membres du Quad. Il a également participé quelques semaines plus tard au Forum des îles du Pacifique. Il est allé en Ukraine, pourtant ravagée actuellement par une guerre avec la Russie, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Et puis il a aussi rencontré quelques jours plus tard Emmanuel Macron à Paris pour tenter de faire table rase du passé et faire oublier la crise des sous-marins. En revanche, sur le plan national, les choses s'annoncent un peu plus compliquées pour le nouveau Premier ministre. La question, bien sûr, de l'inflation qui s'envole en Australie. La fin prévue également d'ici quelques semaines de la ristourne sur le carburant. Des éléments qui pourraient affaiblir encore un peu plus le pouvoir d'achat des Australiens. Un sujet évidemment hautement inflammable.
The inquiry will make recommendations to the government on any changes which could provide greater.
Petite erreur technique, on poursuit sur notre déroulé de l'actualité du jour en Australie. Les semaines à venir s'annoncent difficiles également pour le prédécesseur d'Anthony Albanese, en l'occurrence Scott Morrison, qui va devoir répondre probablement aux enquêteurs concernant le fait qu'il se soit secrètement investi à la tête de 5 ministères durant la pandémie. Tout récemment, le solliciteur général a indiqué que de telles manœuvres n'avaient en soi rien d'illégal, mais en revanche, qu'elle remettait profondément en cause le principe de la responsabilité du gouvernement devant les électeurs et les parlementaires. Effectivement, difficile de rendre des comptes quand on ne sait pas qui est le ministre de tel ou tel ministère. En tout cas, Anthony Albanese attend sur ce dossier de son prédécesseur qu'il coopère pleinement à l'enquête.
The inquiry will make recommendations to the government on any changes which could provide greater transparency and accountability to ensure that this can never happen again and to ensure that we have a system of government in this country that is transparent, where there are checks and balances, and where there is accountability.
L'ouverture de cette enquête est en tout cas extrêmement mal accueillie par l'opposition conservatrice. Ainsi, l'ancienne ministre de Scott Morrison, Susan Ley, a dénoncé une chasse aux sorcières et elle a accusé Anthony Albanese de consacrer plus d'énergie à faire l'inventaire du précédent gouvernement plutôt que de répondre aux problèmes actuels de la population.
Mr. Albanese's priorities are all about the past. He is obsessed and consumed by the politics of the past, when Australians need him to focus on the challenges of their future. Their rising prices in the supermarket, their increased cost of electricity and a broken promise, and mortgages that are looking to go up next month.
En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est passée sous contrôle russe quelques semaines après le début du conflit entre les deux pays. Elle avait été désactivée pendant quelques heures hier. Eh bien, elle est de nouveau raccordée au réseau électrique. Néanmoins, le président ukrainien Volodymyr Zelensky indique que la situation autour de la centrale reste précaire et dangereuse. On l'écoute.
I want to emphasize that the situation remains precarious and dangerous. Any repetition of yesterday's events, in other words, any disconnection of the station, the Zaporizhzhia nuclear power plant from the grid, or any actions by Russia that could trigger the shutdown of the reactors, will once again put the station one step away from disaster. That's why it's essential that the International Atomic Energy Agency mission arrives at the station as soon as possible and helps to keep the nuclear power plant under permanent Ukrainian control.
Au-delà des risques d'accidents nucléaires qui pèsent sur l'ensemble de l'Europe, l'invasion russe en Ukraine fait aussi des centaines de victimes parmi les enfants. D'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, entre le début de la guerre, le 24 février dernier, et le 10 août, au moins 356 enfants ont été tués et 586 autres blessés, tandis que l'organisation Save the Children précise que parmi ces victimes mineures, 16% d'entre elles étaient âgées de moins de 5 ans. Dans la plupart des cas, ces décès résultent de bombardements dans des zones urbaines densément peuplées. Encore hier, dans la ville de Sloviansk, une école a été visée par une attaque russe, une attaque qualifiée de criminelle par Nadia Makeyeva, une femme de 70 ans qui travaillait dans cette école.
It's such a pity. It's so unfair. What's happening in our territory is criminal. Everybody used to live friendly and in peace. Everything was good and developing, improving for the kids and for our city. And now everything is destroyed. It's such a shame.
On reste en Europe, direction la Grande-Bretagne, où la démission de Boris Johnson, du moins on l'espérait à Paris, allait peut-être permettre d'apaiser la relation très tendue depuis le vote du Brexit entre la France et le Royaume-Uni. Eh bien, finalement, il est permis d'en douter, puisqu'hier, lors d'un meeting, Liz Truss, son actuelle ministre des Affaires étrangères et très grande favorite pour succéder donc à Boris Johnson au 10 Downing Street, a refusé hier, donc, lors d'un meeting, de dire si elle considérait Emmanuel Macron comme un ami ou un ennemi de la Grande-Bretagne. Une absence de réponse qui n'a pas du tout plu au président français. On fait le point avec Justine Fontaine pour RFI.
En déplacement à Alger, le président français a réagi ce vendredi à sa sortie du cimetière Saint-Eugène, où il était venu rendre hommage à des soldats morts pour la France.
Je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France.
Réponse claire et ferme, malgré une approche différente de la guerre en Ukraine, ou les mésententes entre les deux pays dans les négociations post-Brexit. Mais Emmanuel Macron n'a pas caché non plus son agacement face aux déclarations de celle qui est encore chef de la diplomatie britannique.
Nous vivons dans un monde compliqué. Vous avez de plus en plus d'illibéraux, de démocratie autoritaire, de puissance, de déséquilibre. Si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi, le terme n'est pas neutre, On va vers de sérieux problèmes.
De quoi pousser le Premier ministre sortant, Boris Johnson, a essayé de calmer les esprits. « J'ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron », assure-t-il ce vendredi.
On traverse maintenant l'océan Atlantique, direction les États-Unis et plus précisément l'État de la Louisiane, où une femme enceinte de 36 ans s'est récemment vue refuser le droit d'avorter, et ce alors que le fœtus qu'elle porte est atteint d'une maladie rare et absolument mortelle. Cette femme réclame au gouvernement de cet État très conservateur, au gouverneur, pardon, de cet État très conservateur, John Bel Edwards, de modifier et surtout de clarifier la législation encadrant l'avortement dans cet État. Nancy Davis, c'est le nom de cette femme enceinte de 15 semaines, explique pourquoi elle souhaite se faire avorter.
10 weeks into my pregnancy, I found out that my baby had a rare birth defect called a crania. The doctors told me that my baby would die shortly after birth. They told me that I should terminate the pregnancy because of the state of Louisiana's abortion ban, they could not perform the procedure. Basically, they said I had to carry my baby to bury my baby.
Et précisons effectivement qu'en Louisiane, l'avortement n'est possible que dans un seul cas, en cas de risque substantiel de décès de la mère, ce qui, d'après les législateurs, n'est pas le cas de Madame Davis. Rien ne va plus entre les champions de la biotechnologie. Le laboratoire Moderna a fait savoir vendredi qu'il allait porter plainte contre Pfizer, BioNTech, deux entreprises qui ont pour point commun d'avoir développé un vaccin contre le Covid-19 et un vaccin qui, dans les deux cas, repose sur la même technologie, l'ARN messager. Mais Moderna accuse désormais Pfizer d'avoir copié ses brevets, d'où la plainte déposée hier. Explication Alexis Bédu pour RFI.
Les vaccins à ARN messager représentent la grande nouveauté médicale déclenchée par la pandémie. Il y a deux ans, Moderna et Pfizer-BioNTech avaient très rapidement mis en production leur vaccin contre le coronavirus en employant cette technologie. Elle permet de commander aux cellules humaines de fabriquer des protéines présentes dans le virus afin d'habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le combattre. L'ARN messager, c'est ce qui a permis à ces firmes d'empocher la mise dans la course au vaccin. Mais Moderna est aujourd'hui convaincue que le vaccin de son concurrent contrevient à des brevets déposés par Moderna lui-même entre 2010 et 2016, précisément sur cette technologie naissante. Pfizer et BioNTech ont copié cette technologie, résume le communiqué de Moderna. Le géant de la pharmacie Pfizer a vu ses bénéfices exploser depuis la sortie de son vaccin, 22 milliards de dollars rien que pour l'année dernière. Moderna réclame donc une compensation pour l'utilisation continue de ces technologies. La firme précise ne pas demander le retrait du marché du vaccin de Pfizer.
Ils n'ont remporté ni les élections présidentielles, ni les législatives, et pourtant, ils pensent avoir gagné la bataille des idées. C'est ce que pensent en tout cas les écologistes français qui se sont réunis hier à Grenoble dans le cadre de leur traditionnelle université d'été. Après un été justement marqué par la sécheresse, de nombreuses vagues de canicule et des orages violents, les Français semblent avoir pris conscience de la réalité et surtout de l'urgence à agir face au réchauffement climatique. C'est également le cas du président Emmanuel Macron qui cette semaine a évoqué la fin de l'abondance. Pour le député et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, c'est là la preuve que son mouvement vient de remporter une victoire culturelle.
Il n'y a pas si longtemps, le président nous traitait d'amiche. Et dans sa bouche, je crois que c'était une insulte. Aujourd'hui, c'est lui-même qui parle de sobriété. On en a parlé tout l'été. On attend qu'on le fasse, hein, parce que si la population doit couper le wifi, on pense que les milliardaires peuvent peut-être faire un effort sur les jets, mais au moins sur le discours, concédez-nous une immense victoire culturelle. Et en fait, il ne court pas après les écologistes. C'est pas uniquement pour ce greenwashing, c'est parce que la population réclame. On peut voir la multiplicité de signaux faibles de cette sobriété, de cette transition littéralement déjà engagée. Et de toute génération, toute CSP et toute zone géographique confondue. Reste à nous d'être à la hauteur.
On vient donc d'écouter le député Julien Bayou, également secrétaire national du parti ELV. Il s'exprimait au micro de Grégory Genevrier pour RFI. Allez, on jette maintenant un œil à la météo en Australie ce samedi. Des averses prévues à Perth où il fait 18 degrés, 18 degrés également à Adélaïde aujourd'hui sous les nuages. Temps nuageux également à Melbourne où le thermomètre affiche 19 degrés, 19 degrés aussi à Sydney où la journée va être émaillée par des averses. Temps humide prévu également à Brisbane où il fait 22 degrés, 27 degrés à Cairns, là aussi où un temps plutôt humide est prévu. En revanche, grand soleil à Darwin où il va faire 33 degrés.
Elle s'appelle Chris Walton. Elle est chanteuse à Las Vegas et entre aujourd'hui dans la nouvelle édition du livre Guinness des records grâce à ses ongles. Les plus longs du monde, 6 mètres déroulés, délicatement vernis. Il a fallu 18 ans pour en arriver là.
Le Guinness des records, c'est un peu la référence quand il s'agit de recenser les exploits réalisés chaque année sur Terre, mais c'est aussi, comme vous venez de l'entendre, des records parfois étranges, fruits d'un investissement de longue durée et de personnes souvent complètement inconnues du grand public. Cet extrait du journal de France 2 en août 2011 en atteste, rentré dans le livre Guinness des records, ce n'est pourtant pas donné à tout le monde. L'histoire du livre Guinness des records, elle commence dans les années 1950 et selon le récit officiel, tout démarre après une partie de chasse dans le comté de Wexford en République d'Irlande. Cette partie de chasse à laquelle assiste Hugh Beaver, qui n'est autre que le directeur de la célèbre brasserie Guinness. Et ce jour-là, une dispute éclate entre les chasseurs. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord pour dire quel est le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Et c'est quelques années plus tard seulement que Hugh Beaver a une idée pour remédier à cette dispute, créer un livre qui recense les records dans le monde. Bon, à la base, cette idée, il compte s'en servir pour créer une publicité pour sa marque de bière. Il souhaite s'appuyer sur ce livre pour pouvoir dire « Regardez, chez Guinness, on règle le problème des disputes dans les pubs ». Et il va faire les choses sérieusement. Il va inviter les jumeaux Norris et Ross McWhirter, des journalistes, à créer un livre qui recense de nombreux faits. La première édition test est lancée dans les pubs qui servent de la bière Guinness en 1954, mais le succès est tel que dès l'année suivante, le 27 août 1955, paraît la véritable première édition du livre Guinness des records, 198 pages de records et de faits en tout genre, et un livre qui devient vite une référence. Il se place parmi les best-sellers britanniques à la fin de l'année 1955 et il s'écoule dès 1956 à plus de 70 000 exemplaires aux États-Unis. Dès lors, le livre devient peu à peu un phénomène mondial et on tente de réaliser les records les plus fous. En France, une petite commune de Vendée s'est d'ailleurs spécialisée dans la réalisation de records. Pendant 9 ans, de 1983 à 1992, elle tenait un festival dédié qui a vu plus de 300 records, parfois très originaux, être battus.
Je suis assis sur une chaise qui apparemment est tout à fait normale, mais cette chaise, elle, est sur le plateau de la plus grande chaise du monde, 12 mètres 10 de hauteur, et c'est l'œuvre d'un artisan d'Aubigny. C'est un des 30 records que pendant tout un week-end, la population de cette petite ville va tenter de battre. Des records qui seront d'ailleurs homologués dans le livre Guinness des records.
Mais rentrer dans le livre des records n'est pas si facile que ça. Les records doivent être homologués et pour cela, ils doivent être mesurés et vérifiés. Si certains records sont en effet très originaux, le livre Guinness dispose tout de même de quelques limites. Pour que le record soit homologué, il ne faut pas que les individus réalisant l'exploit se mettent en danger. Il ne faut pas non plus de consommation excessive d'alcool ou de nourriture, ou encore pas de cruauté envers les animaux. Aujourd'hui, le Guinness des records est tout simplement l'un des ouvrages les plus vendus dans le monde. L'édition 2022, qui sortira en septembre prochain, sera la 67e édition et sera publiée dans 100 pays, traduite en 23 langues. Pour ce qui est des records, en 67 ans, il y en a eu plus de 53 000 recensés.
On va maintenant s'intéresser aux langues régionales françaises, le corse, le breton, le basque, l'occitan. C'est en tout cas la spécialité de la professeure Valentina que notre collègue Thomas Mercier a rencontré.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
En France, il y a près de 5 millions de personnes qui parlent une des 75 langues régionales estimées, mais elles se perdent. En Bretagne, par exemple, l'âge moyen des bretonnants est de 70 ans. Avec moi, j'ai la professeure Valentina de l'Université de Nouvelle-Angleterre dans le New South Wales. Bonjour Valentina.
Bonjour Thomas et merci pour votre aimable invitation aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir accepté. Valentina, vous êtes italienne, vous êtes une passionnée de langue française régionale. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors, j'adore la poésie française du 19e siècle et c'est pour cela que j'ai beaucoup étudié, par exemple, comme d'habitude, Baudelaire, Rimbaud, etc. Mais après, j'ai creusé dans le 19e siècle et j'ai découvert Aloysius Bertrand, qui était un poète de Dijon, qui a créé le poème en prose. Et alors, d'après Aloysius Bertrand, je me suis beaucoup intéressée aux anciennes provinces de la France et j'ai découvert cette anthologie qui s'appelle « Les poètes du terroir ». Et j'ai découvert toutes ces voix et ces poètes patoisans qui écrivaient dans leur langue régionale et je suis tombée amoureuse de cette grande diversité poétique de la France du 19e siècle. Voilà.
Alors oui, en France, il y a plusieurs langues. On a le créole, l'alsacien, l'occitan, le breton, le basque, le corse, le champenois, le provençal, également le picard, plus connu sur le ch'timi. Je vais pas tous les citer puisqu'il y en a 75. Je ne le savais pas, moi, il y a encore quelques minutes qu'il y avait 75 langues différentes en France. Et vous êtes vraiment spécialisée dans le domaine du poème et vous êtes une fervente défenseuse de la langue régionale en France. Vous n'êtes pas trop amie avec l'abbé Grégoire, par exemple.
Voilà, l'abbé Grégoire qui avait proposé le rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française à la fin du 18e siècle, après la Révolution française. Alors, il pensait que le français devait être l'idiome de la liberté et le patois, bien sûr, était associé aux superstitions, à la contre-révolution, etc., à l'aristocratie, alors que les français étaient l'idiome de la liberté et du futur, de la modernité. Par contre, au long du 19e siècle, cela a beaucoup changé parce qu'on a compris que le terroir est aussi important et la diversité culturelle est aussi la diversité des patois. Et je les appelle patois parce que les poètes que je recherche les appelaient patois, mais bien sûr, elles sont des langues, des vraies langues régionales. Et je pense qu'il y en a même plus que ça, parce que on a une grande diversité culturelle, même dans de différentes villes. On pourrait parler un patois un peu différent que d'une ville tout près.
Alors oui, c'est vrai que par exemple, vous m'avez envoyé un poète qui s'appelle Le Patois. Oh, je le prononce déjà mal. Déjà, je suis mal parti. C'est Le Patois. On va écouter juste un tout petit extrait.
J'ai fort qui erre le français, j'ai le plus joli langage. Comme j'aime le bio-vêtement que je mets dans les honneurs. Mais je préfère ma patois, musique d'un premier âge qui chaque jour fait canter, je suis qu'à busier ma cœur.
Et c'est un poète que vous connaissez par exemple?
Oui, un poète que j'aime bien, il s'appelle Jules Mousseron.
Et vous comprenez tout là?
Oui, je comprends tout, oui, je comprends tout, mais je l'ai beaucoup lu et étudié. Il était poète, mais il était aussi mineur de fond. Il était un ouvrier. Il est né en 1868 et il chantait le patois de la mine en Picard, au nord de la France. Il était de Nantes, près de Valenciennes, et il déclamait ses poèmes dans la place de Denain. Et voilà, il était presque une vedette. Il aimait beaucoup cette solidarité entre mineurs et il chantait ses chansons, ses poèmes, habillé en blanc, parce que le blanc était le costume de travail des mineurs. Et aussi, il avait une barrette. Une barrette, c'était un chapeau dur pour protéger la tête des mineurs. Et voilà. Et alors, je vous montre, je pense, un autre visage du poète national au 19e siècle, parce que je pense que le poète national au 19e siècle, on pense toujours, je pense, à Victor Hugo, par exemple, ou à Baudelaire, je sais pas, peut-être
Rimbaud.
Après. Rimbaud aussi, voilà. Et d'habitude, on pense à une sorte d'aristocratie poétique. On pense à ces grands hommes, voilà, la patrie reconnaissante. Alors qu'on a même des femmes, on a des poètes du peuple, on a des poètes ouvriers. Et j'aime bien étudier cette diversité culturelle dans la scène poétique du 19e siècle. Et je voudrais encourager... tout le monde à lire, à écouter ses poèmes, parce que comme Charles Nodier avait dit, tout homme qui n'a pas soigneusement exploré les patois de sa langue ne la sait qu'à demi. Voilà.
Vous êtes une vraie rebelle, une vraie défenseuse de la langue régionale. Et voilà. D'ailleurs, en parlant des langues régionales, il y a une loi du 21 mai 2021, ce qu'on appelle, on appelle la loi Molac, un député breton qui avait fait ce texte de loi pour pouvoir rendre accessible l'apprentissage des langues régionales, et notamment le breton, vu que ce député est breton. Et le Conseil constitutionnel a rejeté cette loi, disant que l'article 2 prévoit que la langue de la République est une langue française, mais cependant à l'article 4, on retrouve que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc c'est pas très clair si c'est une obligation ou pas, s'il y a une possibilité ou non de pouvoir apprendre des langues régionales en France, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Et c'était une grande polémique aussi, parce que c'est encore cette mentalité de la centralisation révolutionnaire. C'est un peu c'est grâce à l'abbé Grégoire, si l'on veut. Et aussi,
vous partirez pas en vacances avec lui, hein, même s'il est plus là.
Non, mais même parfois, quand je pars de l'abbé Grégoire avec mes étudiants, je dis toujours, il était un grand homme, quoi. Il était contre l'esclavage, par exemple, voilà. Mais il y avait cette peur des provinces, cette peur de cette diversité, parce que c'était une menace contre la République une et indivisible qu'on voulait bâtir après la Révolution française. Oui, centralisé, c'est ça. Et encore, c'est encore un grand débat en France, la centralisation, alors qu'on a besoin de la décentralisation, etc. Et aussi, je voudrais même parler un peu de la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 2020 contre la discrimination par l'accent. Par exemple, et elle a été proposée en tant que visant à promouvoir la France des accents. Et alors, c'est une proposition pour considérer la discrimination par l'accent comme une autre forme de discrimination, par exemple le racisme ou le sexisme. Et ça, c'est très important parce qu'on change complètement par rapport à l'abbé Grégoire, par exemple. Il faut promouvoir tous les accents et toutes les langues.
Alors, celui qui imite mal l'accent marseillais et ceux qui me connaissent, je l'imite très très mal, c'est condamnable.
Voilà. Et aussi, il avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'épisode de Mélenchon qui s'était moqué de la journaliste de Toulouse. Alors, elle avait posé une question et lui avait répondu « Qu'est-ce que quelqu'un pourrait me poser une question en français ? Parce que je ne comprends rien. » Et cela, c'est une forme de glottophobie, une sorte de discrimination par l'accent qui est la glottophobie. Alors, on doit éliminer ça aussi à travers, je pense, la poésie.
Exactement. Alors, Valentina, moi, il y a une question qui me travaille. Vous êtes italienne, vous êtes originaire de l'Italie du Nord. Pourquoi une Italienne s'intéresse autant aux langues régionales françaises ?
Alors, oui, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup aux langues régionales françaises, mais aussi aux langues régionales italiennes, parce que ma langue maternelle est le bresciano, qui est une langue du nord de l'Italie. La ville s'appelle Brescia. Et je m'amuse bien quand je traduis des poèmes, par exemple, du français au bresciano. Et j'ai traduit même Baudelaire en bresciano. Alors, c'est une sorte j'aime bien utiliser la traduction littéraire et poétique, surtout, pour la promotion des langues régionales.
Valentina, par exemple, vous pouvez nous faire un petit extrait de poème ?
Bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez du poème, par exemple, le spleen de Baudelaire, « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », bien sûr. Dans ma version en bresciano, c'est « Quand quel ciel bas et sgiuffe, il pesa come un coercio, se l'anima lamentusa tormentada da longue noie, e dell'orizzonte l'embrasaso, tout er cercle, el geversan de neger, amo più triste che la notte. » Voilà qu'il y a des voyelles qui sont des voyelles françaises, parce qu'en italien, on n'a pas E, U, voilà. Mais dans mon patois à moi, oui, on a le E, le U. Par exemple, quand on compte le numéro 19, je dis 19 ou 18, voilà. C'est la même chose en français et en bresciano.
Donc, je comprends maintenant pourquoi les Italiens disent qu'on est cousins, en fait, avec les Français.
Oui, c'est ça, on est cousins.
Pour la petite histoire, il faut savoir que Nice a été en Italie pendant très longtemps, hein. C'est à la période napoléonienne que c'est devenu français, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. La Savoie, je voudrais rappeler un peu l'histoire de la Savoie, parce que l'autre protagoniste de mes études, de mes recherches, s'appelle Amélie Gex. Et Amélie Gex, elle écrivait un patois arpitan. Et elle habitait à Chambéry, et elle a un autre poète que j'adore, parce que elle a vraiment chanté la vie des Alpes au 19e siècle. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle a été aussi découverte par les Félibres du Félibrige au sud de la France, le Félibrige qui a été fondé entre autres par Frédéric Mistral.
Oh.
Oui, bien sûr, qui est un écrivain en occitan, gagne en 1904 le prix Nobel de la littérature. C'est assez exceptionnel pour son œuvre Mireille. Et voilà, alors elle a été découverte même par ce groupe. Alors on voit ici qu'il y a des échanges entre régions sans passer par Paris. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que cela démontre qu'il y a une décentralisation culturelle. Alors on peut. Si l'on veut, on peut se passer de Paris au lieu de passer toujours par Paris.
Exactement, il n'y a pas une culture, il y a des cultures.
Voilà.
Merci beaucoup,
ça.
Valentina. Et je vous invite à vous rendre le 18 août. Vous pouvez nous parler de l'événement auquel vous participez le 18 août ? Où ça se trouve ? À quelle heure on peut vous écouter ? On peut vous poser des questions ? Et rappelez-moi ce que c'est cet événement.
Alors, c'est complètement gratuit. C'est dans le théâtre qui s'appelle le The John, à Penrith, près de Sydney, et vous pouvez vous rendre gratuitement. Aussi, il faut s'inscrire sur le site internet. Je vais parler de ça. Je vais parler des poètes patoisans au 19e siècle et aussi un petit peu des poètes régionaux australiens. Alors, je vous attends nombreux et nombreuses.
Merci beaucoup, Valentina, pour ce moment passionnant, et on se retrouve très très vite.
Merci à vous encore une fois.
Merci.
Au revoir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si vous n'avez pas encore déjeuné aujourd'hui, votre estomac, comme le mien, doit commencer à sérieusement gargouiller. Et je m'excuse à l'avance, mais ça risque un petit peu de s'aggraver, car nous allons justement parler de cuisine, non pas de petits plats, mais du fonctionnement d'une cuisine de restaurant. En général, il y a un chef autour de qui travaille une brigade, comme dans le très beau film du même nom que vous avez peut-être eu l'occasion de voir il y a quelques mois pendant le Festival du film français. Alors comment ça se passe concrètement dans les coulisses d'une cuisine de restaurant ? Eh bien, c'est ce que le chef Philippe Mouchel a bien voulu dévoiler à Thomas Mercier.
Découvrir, savourer, aimer. À table, votre chronique culinaire sur SBS. Philippe Mouchel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une brigade, vous avez une grande cuisine, une longue expérience. Et il y a des questions quand même qui se posent pour le commun des mortels, pour le client. Une cuisine, c'est une organisation. Il y a le chef, il y a le commis, il y a le second en chef, il y a les cuisiniers, il y a celui qui est en charge de la préparation du dessert, de l'entrée, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne une cuisine d'un restaurant, d'un grand restaurant ?
Alors, les cuisines, alors les brigades, ce qu'on appelle, on appelle ça une brigade de cuisine.
C'est très militaire.
Ah, mais c'est très, très militarisé, c'est très organisé surtout. Moi, ma première expérience avec une vraie brigade de cuisine, c'est quand j'ai commencé chez Paul Bocuse. parce que bon, je venais d'apprentissage en Normandie. C'était un petit hôtel, un restaurant. Il y avait un chef et des apprentis et c'était tout. Donc quand je suis arrivé chez Paul Bocuse, j'ai tout de suite vu que c'était tout organisé. C'était la vraie brigade. Et donc les brigades, c'était déjà sous Escoffier. Hein, c'est Escoffier qui avait organisé tout ça. Et chez Paul Bocuse, donc on avait le chef de cuisine ou des fois deux chefs de cuisine. Après, c'était sous-chef, deux sous-chefs. Après, c'était chef de partie. Donc, chef de partie, ça veut dire c'est un chef qui est en charge de sa propre partie. C'est-à-dire, ça peut être la sauce, le poisson, l'entremets, la pâtisserie. Donc, il y a un chef pour chaque partie. Le personnel aussi pour les grandes maisons.
Pour chaque ingrédient qui vont pas composer chaque... le plat.
C'est-à-dire, celui qui s'occupe du poisson s'occupe de tout ce qui est poisson dans la cuisine. Hein, donc là, il y a un chef de partie. Celui qui s'occupera de la pâtisserie, il y aura un chef de partie qui sera en charge de la pâtisserie. Et pareil pour l'entremets, et aussi pour le personnel. Dans les grands hôtels, il y a un chef qui s'appelle un communard qui est en charge du personnel. Et aussi, dans les grands hôtels, dans le temps, il y avait celui qui annonçait les bons. Dans le temps, il n'y avait pas de système POS comme on a maintenant. Vous tapez sur le screen et les bons arrivent dans la machine. Il y avait les serveurs amenaient les bons au chef et le chef annonçait les bons. Et ce chef s'appelait un aboyeur. Ça se fait de moins en moins maintenant. C'est tout fait par machine.
Alors, pratiquement. Si je ne me trompe pas, l'aboyeur existait également dans la rue pour annoncer les nouvelles.
Oui, 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 c'est ça, oui, exactement.
Donc il y avait exactement la même organisation, même le même chose, type de rôle en même cuisine. Chose.
Donc, chef de partie et des commis de cuisine. Dans chaque partie, vous avez un chef de partie et sous les ordres du chef de partie, vous avez des commis. Donc le commis aide le chef de partie. Et en dessous le chef de partie, vous avez les apprentis.
Qui viennent d'école pour se former.
Voilà, c'est ça, c'est la relève. C'est la relève.
Et par exemple, si le commis veut prendre la place du chef et proposer une recette, est-ce que c'est possible ?
Ah non, mais ça se fait pas comme ça. Si le commis veut comment dit-on ?
Le calife à la place du calife.
Oui, c'est ça. Il faut qu'il le prouve au chef d'abord. Hein, il peut pas dire au chef, je vais vous piquer votre place. Ça se fait pas comme ça. Le commis, d'abord, il faut qu'il soit chef de partie. Après, il faut qu'il soit sous-chef. Et peut-être après, il sera chef de cuisine. Dans le temps, ça n'arrivait pas beaucoup parce que le chef de cuisine, il restait dans la même maison. Il commençait là et il finissait là. Hein, maintenant, c'est plus pareil. Les chefs bougent beaucoup maintenant. Donc, il y a plus de... C'est plus facile d'avoir une promotion.
Alors, c'est-à-dire que le commis peut rester commis toute sa vie ?
Non, en principe, le commis peut devenir chef de partie parce que le chef de partie peut devenir sous-chef parce que le sous-chef peut devenir chef de cuisine. Hein, c'est comme ça que ça passe. Le sous-chef s'occupe, donc le chef de cuisine s'occupe de tout ce qui est gestion de la cuisine, bien sûr, de toutes les recettes et menus. Et le sous-chef s'occupe de voir que tout va bien. Et aussi, quand le chef de cuisine n'est pas là, c'est lui qui remplace le chef de cuisine.
Alors justement, c'est une question que je me suis souvent posée. Le chef, donc le patron de la cuisine, c'est lui qui amène la recette, qui l'écrit dans ses cahiers. Il se documente, c'est des années de travail, de recherche gustative, etc., des tests. Il va partager cette recette avec son équipe. Si demain, son sous-chef ou un commis a accès à ces recettes et il s'en va, il va faire ça ailleurs, est-ce que c'est des choses qui se font dans le métier ou par esprit de professionnalisme et de respect vis-à-vis de ses supérieurs, la recette reste confidentielle ?
Oui, mais vous savez, Monsieur Bocuse disait toujours « on n'invente plus rien maintenant ». Hein, donc, si vous voyez les gens voyagent énormément, les chefs voyagent énormément, que ce soit en France ou à l'étranger, et prennent des recettes, mais ils l'adaptent à leur façon. C'est comme ça que ça se passe. Les techniques, c'est pareil. Hein, vous apprenez une technique, vous allez garder la technique. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pouvez pas recopier une recette, bon, à part un cassoulet, parce que ça, c'est quand même l'histoire du.
De dans le domaine public.
Mais oui, ça, tout le monde fait le cassoulet, il n'y a pas de problème. Mais bon, une recette spécifique, vous n'allez pas la copier. Hein, vous garderez la technique, mais vous la changerez à votre façon. C'est comme ça que ça se passe.
Ah, ils ont aussi un rôle non seulement de chef, mais aussi de père vis-à-vis de leurs équipes.
De l'équipe, oui, exactement.
Apparemment, De ce que j'ai appris il y a quelques temps, la cuisine était un environnement qui était assez difficile. C'est-à-dire qu'un chef peut être très caractériel, le sous-chef peut être très caractériel, et ça a une ambiance assez militaire où le chef peut avoir une voix qui porte pas mal. C'était le cas de Paul Bocuse.
C'est assez difficile parce que vous savez, ces maisons, c'est quand même des 3 étoiles. Vous n'avez pas le droit de faire d'erreur. L'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Donc, c'est une grosse responsabilité pour le chef de cuisine et le sous-chef aussi, quoi. Donc, de temps en temps, il y avait quelques engueulades.
Quotidiennes.
Oui.
Voilà.
Je n'en dirai pas plus. Donc... Et ça se fait toujours. Ça se fait toujours. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress aussi. Ouais.
Alors, un restaurant, avant tout, c'est une entreprise. Donc, qui dit entreprise, dit rentabilité. Ouais, donc, un coût et le plat, il faut le vendre à un certain prix. Et la meilleure publicité dans la gastronomie française, j'ai envie de dire, autour du monde, puisqu'on a des étoiles Michelin un peu partout dans le monde maintenant, c'est l'étoile Michelin.
Oui.
Donc, la pression des grands chefs, en fait, c'est de minimum garder son étoile et au mieux en gagner une. Comment ça se passe? La personne qui travaille pour le guide Michelin vient de façon anonyme, avec une fausse moustache et un imperméable et un chapeau, et vous savez pas qui c'est?
Non, ils viennent pas comme ça. Ils viennent... maintenant, ils viennent... c'est jamais les mêmes qui viennent. Ouais, s'ils veulent vous décerner une étoile ou 2 étoiles et 3 étoiles, ils viendront 2 ou 3 fois. C'est comme ça que ça se passe, mais ce sera jamais les mêmes gens. Comme ça, vous pouvez pas les reconnaître. Vous pouvez pas avoir une moustache cachée, des cheveux ou... mais bon, c'est beaucoup de responsabilité. D'abord, il faut savoir si vous voulez une étoile ou si vous en voulez pas. Hein, il y a des restaurants qui ouvrent, ils disent moi je veux une étoile ou je veux 2 étoiles, donc ils font tout ce qu'il faut pour ça. Mais c'est un gros investissement. D'abord, une étoile, 2 étoiles, c'est une grosse brigade. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher.
C'est pour ça que. En général, ce que l'on retrouve, c'est plutôt un chef qui est employé par un investisseur ou un grand patron qui dirige ce restaurant. Moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'avais rencontré, Thierry Marx, qui était à Corday-en-Bage, qui était un employé qui a gagné ses étoiles du fait qu'il était employé et qu'il avait la liberté de pouvoir créer des recettes.
Oui.
Thierry Marx, qui est plutôt cuisine moléculaire.
Yes.
Tiens, d'ailleurs, j'en profite.
Un peu moins maintenant.
Il a son restaurant maintenant sur Paris.
Il est à Paris au Mandarin, oui.
Exactement. Vous en pensez quoi de la cuisine moléculaire? Est-ce que c'était un phénomène de mode, ou
que c'était une mode. Regardez, maintenant, on n'en parle plus beaucoup. Mais bon, c'est les chefs espagnols qui ont créé ça. Et à cette époque-là, tout le monde s'est mis à faire de la cuisine moléculaire. Mais chez Paul Bocuse, on n'en a jamais fait. J'étais plus là-bas. Mais ils n'en ont jamais fait. Donc je pense que c'était une mode, oui. Mais je pense qu'il y a eu des bonnes techniques à apprendre. Vraiment. Vraiment. Mais maintenant, on en parle moins quand même.
Et donc, c'est un phénomène qui est complètement passé.
Je pense, ouais.
Et donc, on reste sur la thématique de l'étoile, de la pression, de pouvoir préparer des plats qui sont de qualité. Donc, on part sur des produits frais, évidemment.
Oui.
Vous faites les marchés, par exemple.
Produits frais et de terroir, surtout, maintenant.
Circuit court.
Ah, tout à fait, oui. Et organique, maintenant. Beaucoup d'organique. Cuisine de terroir, cuisine frais. Produits frais, je veux dire. C'est comme ça qu'il faut cuisiner.
Et donc, vous régulièrement, vous chassez vos produits pour pouvoir former vos équipes, parce que vous avez ce rôle de formateur.
Bien sûr.
Vous avez beaucoup d'étudiants en cuisine qui viennent chez vous pour se former et apprendre le métier.
Oui.
D'ailleurs, vous m'avez confessé, si je puis dire, qu'en ce moment, c'était un peu dur de trouver du personnel dans les restaurants. Je pense que le phénomène est le même aujourd'hui en France.
C'est pareil dans le monde entier. J'ai parlé avec des collègues en France, des amis, ils m'ont dit qu'ils ont le même problème. Ils ne trouvent pas de personnel.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup plus en plus d'émissions de télé-réalité dédiées à la cuisine.
Oui.
On en a un en France sur M6, c'est Philippe Estebech.
Oui.
Il y a celui en Angleterre qui tourne également aux États-Unis, dont j'ai
Gordon Ramsay,
également. Comment ça se fait que les jeunes qui démarrent des études en cuisine ou qui ne désirent pas se tourner vers ce métier ne vont plus vers ce métier alors qu'aujourd'hui, il y a une communication mondiale sur la restauration?
Je crois que, je ne sais pas, on ne va pas reparler de la Covid encore, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est quand quand il y a eu toutes ces isolations, les gens sont restés à la maison, ils se sont aperçus que finalement ils pouvaient faire autre chose que de faire 12 heures par jour dans une cuisine.
C'est exactement la question que je me posais. Les horaires, vous vous levez très tôt. On n'ouvre pas une cuisine, si vous commencez un service à midi, vous n'allez pas arriver à 11h30.
Ah non, ça se passe pas. On est là à 8h, on est là à 8h le matin. 8h le matin. Et l'après-midi, on fait le déjeuner. L'après-midi, on prend un break si on a le temps. En ce moment, on n'a pas beaucoup de personnel. On n'a pas tellement le temps. Donc, et on s'en va. On fait le service du soir et on s'en va à 11h le soir, minuit le soir. Quoi.
Ça donc, fait des gros horaires.
C'est des... Et je pense que de moins en moins, il y a des jeunes qui ne veulent pas faire ça. Ou ils font plus d'études, ou ils font autre chose.
Donc si vous voulez candidater, vous avez l'âme d'un cuisinier, vous voulez refaire des études, vous reconvertir, contactez.
Ah, pour moi, c'est trop tard, mais...
Non, vous êtes...
Moi, c'est plutôt à la retraite.
Ou autre chose. Pour venir travailler avec vous.
Mais c'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai de la chance que j'ai des... J'ai quand même des jeunes qui sont avec moi depuis plusieurs années, qui sont encore là, quoi. J'ai réussi à garder pendant l'isolation. On a fait du take-away, donc ils sont restés là. Mais ce qui s'est passé avec tous ces jeunes qui étaient venus en Working Holiday Visa, ils ont été obligés de repartir parce que le gouvernement australien ne les a pas aidés. Donc ils sont partis et maintenant on n'a plus personne, quoi.
Merci Philippe.
Merci.
Et à très bientôt. J'ai envie de dire chef. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Merci chef.
Merci bien.
Sur le clavier de nos vies, on écrit, on en met des couches. On dactylographie à 1000 à l'heure et on étouffe. Pour suspendre le récit, suffirait d'enfoncer la touche. La seule et l'efficace, c'est le
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec le groupe Paris Combo et ce morceau qui s'intitule Bar Espace. On se retrouve dès demain à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions, nos interviews et nos reportages sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
Je manque d'espace, je ne suis pas à ma place. Je ne vois pas de félicité dans le fait d'être sans fin sollicité. Je manque d'espace, j'ai la mémoire qui s'efface. Je manque d'espace, le confinement me dépasse.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.